Vous écoutez France Culture.
Ah, salut Vera, comment ça va?
Salut Lagan. Alors qu'est-ce qu'on a? J'espère que ça vaut la peine.
Bah regarde, le magnétoscope, on vient de le déterrer. Je te préviens, c'est pas très jojo.
Ouais, effectivement. Alors attends, laisse-moi regarder. Bon, l'identité judiciaire a fait son boulot, vous avez pris une photo?
Ouais, empreinte, prélèvement de la carrosserie. On a envoyé le bouton de lecture, là, en analyse. Avec un peu de chance, on va retrouver le fabricant. T'en penses quoi?
Bah écoute, comme ça, à première vue, ce que je peux te dire, c'est que c'est du vieux. Voilà. Ouais. Tu vois, regarde, on voit encore le fil là qui va de la télécommande à l'appareil. Moi, je dirais que c'est une machine des années 80.
Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Écoute, l'étiquette a été partiellement effacée, mais bon, à la lumière, je te... Voilà. Moi, je dirais qu'on a affaire à un épisode de Rick Hunter.
Ah, mais c'est horrible!
Ouais, mais tu vois, c'est ça notre quotidien, traquer les malades.
Benoît Lagan,
Eric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 22.
Les nouvelles figures des séries policières. Dans les épisodes précédents, nous vous avons parlé de nombreuses séries contemporaines, alors des séries médicales, judiciaires, fantastiques et politiques des années 90 et 2000, alors Après Urgence, Law and Order, The West Wing, d'autres séries méritent d'être abordées dans ces derniers épisodes de notre saison. Nous avons décidé de nous arrêter ce soir sur les grandes séries policières produites depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Vic Mackey, par exemple, le héros de la série Shock, The Shield. Ce flic n'est pas arrivé sur le petit écran par hasard. Il est le cousin d'autres flics qui ont été imaginés et filmés dans les années 90. Nous y reviendrons. Mais pour ouvrir cet épisode, puisqu'hier nous parlions des grandes séries politiques, nous aurions pu également parler d'une série qui a mis chemin entre la série politique et policière, The Wire.
Peut-être commencer aussi par dire que The Wire est un ovni, hein, une série profondément sous-estimée en France comme aux États-Unis, hein, son pays d'origine. J'entendais l'autre jour dans un magasin de vidéos un vendeur présenter la série à un client comme du Sidney Lumet des années 70, donc du bon Sidney Lumet mais pour la télé. Et bon, il y a de ça, mais c'est vrai que cette série c'est beaucoup plus encore. Je pense qu'elle a quasiment la vertu du documentaire. Alors bon, on peut peut-être commencer par raconter un petit peu l'histoire, même si ici il n'y a pas d'argument spectaculaire, il n'y a pas de concept incroyable à la Lost, par exemple. Donc la série, elle s'attache en fait à décortiquer le jeu des institutions locales américaines. Donc la série se passe en fait à Baltimore. David Simon, le créateur, est natif de Baltimore et il a choisi sa ville pour parler des problèmes du pays tout entier. Donc lui, David Simon, il a été journaliste là-bas dans cette ville pendant une quinzaine d'années. Et bon, la clé de The Wire vient sur certainement de ses choix de narration. Déjà, on a une série qui devient ici ce qu'on appelle une série roman, hein, c'est-à-dire que finalement, chaque épisode est un chapitre d'une seule et même grande histoire qui va se dérouler sur 13 épisodes. Donc ça donne un rythme finalement assez singulier, complètement différent. Et puis surtout, la série, elle ne cherche pas d'éventuels cliffhangers, hein, à chaque fin d'épisode. Elle a la longueur pour elle, d'accord ? Alors, The Wire, c'est aussi un point de vue multiple. Alors on voit aussi bien les flics que les bandits. J'allais dire les gentils que les méchants, mais c'est bien plus compliqué que ça. Alors, si la série elle est complexe comme ça, c'est parce qu'elle est écrite et par David Simon, mais surtout aussi par Ed Burns, c'est son compère, hein, ils écrivent tout ensemble. Et Ed Burns, c'est un ancien policier de la criminelle de Baltimore. Et tous deux, en fait, ils s'attachent finalement à raconter uniquement des choses qu'on leur a racontées, ou des choses, en tout cas, qu'eux, ils ont vécues dans cette ville de Baltimore. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est que The Wire, c'est le destin d'une poignée de personnages, mais finalement, c'est vraiment une critique de l'Amérique entière, hein. C'est la gestion de la violence, la gestion du terrorisme, de la drogue, la question de l'éducation qui va venir dans les dernières saisons. Et puis bien sûr, le rôle des élites. Ça, c'est quelque chose qui revient dans la plume de Simon, qui est vraiment un auteur, je dirais, militant. L'autre chose qui est très intéressante par rapport à The Wire, c'est les guests, hein, c'est les invités qui sont venus écrire sur la série. Donc on a rarement vu autant de grands auteurs venir écrire des épisodes. Donc dans la liste, on a George Pelecanos, hein, le James Ellroy de la côte Est, comme on l'appelle. Il y a Richard Price, dont Spike Lee a tourné en adaptation l'un des livres, qui s'appelle Clockers. Et puis on aura Dennis Lehan.
Mystic River, c'est
ouais,
ça?
Par exemple, ouais. Et donc tous ces gens-là sont venus aider finalement Simon dans sa peinture de cette Amérique contemporaine. Et donc ça fait vraiment The Wire une œuvre vraiment à part.
Vous les voyez, McNulty? Vous les voyez? Ils sont pour vous. Ils sont pour vous jusqu'à ce que cette histoire soit réglée.
Pardon, chef, qu'est-ce que...
Non, faites pas l'innocent avec moi, espèce de sale petit minable d'enfoiré de traite de merde. Je peux savoir ce que vous êtes allé foutre au tribunal? Qu'est-ce qui vous a pris de parler à ce connard de juge?
The Wire, Eric, vous en parliez à l'instant, est une série donc signée David Simon. Alors David Simon, en 1988, il est journaliste au Baltimore Sun et à l'époque, il obtient l'autorisation de suivre pendant une année les détectives du département des homicides de la ville. Cette enquête va être publiée dans un livre, Homicide, The Year on the Killing Streets. Ce livre va recevoir plusieurs prix. C'est un document riche qui décrit avec assez de justesse le quotidien de ces flics, mais surtout est un portrait sans fioriture de Baltimore, cette ville défavorisée où la plupart des assassinats sont liés au trafic de drogue. David Simon, après ce livre, on le retrouvera dans une de ses premières séries, Homicide, qui n'est rien d'autre qu'une adaptation de ce livre. La série s'appellera Homicide, Life on the Street, homicide en français, et c'est une série qui va être produite par le cinéaste Barry Levinson et le téléaste Tom Fontana, futurs créateurs tous deux de Oz. Cette série Homicide raconte donc le quotidien de flics, encore, toujours à Baltimore. Ce qui est intéressant, c'est que Homicide est un objet télévisuel majeur qui nous livre une vision très réaliste de la démographie ou de la sociologie de la ville de Baltimore, et nous sommes dans les années 90.
Si seulement je retrouvais ce satané truc, je pourrais rentrer chez moi.
La vie est un mystère et il faut te faire une raison.
Tu t'es créé un monde à part, Crosetti.
Ce qui compte, c'est chercher. Pas trouver, chercher. Je l'ai lu dans un bouquin.
Parce que tu sais lire, toi? Première nouvelle?
Parfaitement, j'ai lu un livre. En fait, j'en ai lu qu'un extrait.
C'est bien ça, tu prétends avoir lu un bouquin alors que t'en as lu qu'un passage.
Dans lequel il était écrit qu'on ne trouvait jamais vraiment ce que l'on cherchait parce que l'intérêt, c'est la recherche. Une fois que tu as trouvé, tu n'as plus de raison de chercher.
Tu vis dans un monde à part dont personne n'a envie de faire partie.
Tu essaies de trouver des explications à tout alors qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
Tu sais ce que tu es? T'es qu'un petit hamster à la tête enflée. T'as des macaronis à la place de la cervelle.
Et tu vas le regretter.
Alors bon, on peut pas parler des séries policières des années 90 sans évoquer
NYPD Blue.
Voilà, New York Police Blues, hein, qui est bien plus connue du grand public, par exemple, que Homicide. Bon, et puis il a raison, hein, parce qu'elle est plus classique. Donc elle va rester comme un standard de ces années 90. La série, elle est signée Steven Bochco, encore lui, et puis David Milch, donc deux très grandes de l'écriture télé américaine. On peut aussi citer dans la production de NYPD Blue Bill Clark, hein, qui est un ancien policier. Donc on voit qu'à chaque fois l'ancien professionnel qui apporte des infos, il est vraiment primordial dans ce type de série. Donc lui, il va beaucoup influencer les créateurs de NYPD Blue. C'est même lui qui en prendra les manettes durant la dernière saison. Alors bon, c'est un cocktail marquant, NYPD Blue. Moi, ça me rappelle la musique de Mike Post, hein, ses percussions qui collent admirablement à la tension qui règne dans les rues de Manhattan. Bon. Paradoxalement, la série, elle est quasiment tournée tout le temps dans le downtown de Los Angeles. Mais bon, c'est aussi ça, Hollywood, c'est le talent de faire croire des choses. Donc NYPD Blue, c'est aussi une réalisation nerveuse. Vous savez, la fameuse caméra portée, hein, qu'il Street Blues a expérimenté dans les années 80, qu'Homicide a remis au goût du jour début 90, et puis que NYPD Blue, quelques années plus tard, finalement va s'approprier. Et puis NYPD Blue, c'est la figure de Sipowicz, hein, un personnage immense, un des plus grands personnages de l'histoire de la télé américaine. Alors Jean-Pierre Eskenazi, qui est sociologue et puis qui aime bien et qui a étudié la série NYPD Blue, nous en parle.
Ferme la porte. Très bien. Je ne suis plus derrière mon bureau.
Ça, c'est ce qu'on va voir.
Ce que je t'ai dit ce matin, c'était faux. Je me suis déjà fait une opinion personnelle en ce qui te concerne. Je crois que t'es un enfoiré.
Je crois que t'en es un aussi.
Mais ça n'a aucun effet sur la façon dont je te traite dans le
monde. Tu es vraiment sûr de ça?
Oui, j'en suis tout à fait sûr.
Des gars comme toi, ça me fait rire.
Et à quel genre de gars est-ce que tu veux faire allusion?
Mais au patron noir.
Enfin, voilà, nous y sommes.
Je croyais être parfaitement libre d'exprimer mes opinions.
Alors pour toi, je suis ce qu'on peut appeler un faillot.
Je me réveille pas la nuit en imaginant qu'on garde les cochons ensemble. Mais ce que je veux te dire, c'est que vous êtes des dingues du règlement. Vous êtes comme des machines, tu comprends ça? Vous détestez les mecs qui en font un peu dans l'improvisation.
Mais toi, tu imagines qu'on va être plus royaliste que le roi parce qu'on sera observé par des gens qui aimeraient bien qu'on se plante.
Dis donc, ça te rend nerveux, on dirait, hein? Que des gens regardent par-dessus ton épaule pour voir ce que tu vas faire comme erreur.
Mais c'est exactement le rôle que je dois jouer vis-à-vis de toi, Sipovitch.
J'ai une grosse thèse sur NYPD Blue. Pour moi, c'est l'héritier du cinéma de John Ford. Le cinéma de John Ford, il porte sur la question de la communauté. Comment on fait pour maintenir une communauté? Qu'est-ce qui cimente les gens les uns avec les autres? Qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble? Et cette série-là prend un commissariat avec des gens qui sont définis de manière essentielle par leur faiblesse, qui sont définis par le fait qu'ils sont ivrognes, racistes, plein d'ivrognes quand même. Enfin, ils ont tous une faille existentielle terrible. Et ce sont ces gens-là qui doivent maintenir l'ordre, qui doivent maintenir la communauté. Et pour ça, le principe de la série, c'est qu'ils doivent maintenir leur propre communauté entière. Et ça occupe quand même vraiment énormément le scénario.
Detective Sipowicz, please tell the court how you came to arrest Mr. Giardella.
This past August 27th, I was routinely surveilling the defendant because he's a known felon. During the course of the surveillance, I observed the defendant's vehicle have a flat tire. And he got out of the Cadillac and he opened the trunk.
Jean-Pierre Eskenazi, à propos de la réalisation de NYPD Blue.
Avec immédiatement la volonté d'imposer un nouveau style visuel, comme il avait fait avec les Street Blues, avec ses décadrages continuels, qui sont une des marques de fabrique, et ce montage chaotique. Même Godard n'a jamais osé faire ça, vraiment. De même qu'il avait imposé une autre forme de mise en scène avec les Street Blues, avec une nouvelle définition du héros comme un salaud. Bon. Avec un personnage fuyant qui est sans regard, enfin le contraire du héros habituel. De commencer comme ça une série policière dans le tribunal, avec un personnage récurrent, futurement, enfin qui va être récurrent, l'avocat, l'horrible avocat chauve.
Comédien que l'on reverra ensuite dans Murder One.
Le monde des comédiens de série est un petit monde. On les retrouve de manière extraordinaire.
Le flic est accusé.
Et son attitude même nous convainc que c'est la vérité, qu'il a menti, qu'il a triché. Et donc ça va aller très loin, puisque dans l'épisode, donc, ce flic menteur va se révéler être un flic ivrogne, d'abord, fréquentant des prostituées. Donc on se demande comment un tel personnage peut devenir un héros américain.
Je te regardais nager dans une bouteille quand tu effectuais les basses besognes. Je t'ai regardé mener une guerre privée avec un truand. Ça t'a rendu complètement cinglé pour des raisons que j'arriverai jamais à comprendre. Mais la vérité, c'est que je t'ai quand même laissé faire. Parce que t'étais un bon flic, doublé d'un bon professeur.
Je peux continuer à l'être. Oui, je peux continuer à l'être si tu enlèves la bride que tu as mis autour de mon cou. Pour l'amour du ciel, j'ai pas touché un verre depuis 63 jours.
Aux alcooliques anonymes ou quoi?
Je fais ça à ma façon et je m'en sors.
Comment? En restant chez toi devant la télé? En faisant des trous dans le canapé avec tes doigts? Il y a une différence entre abstinence et sobriété.
Oh, écoute. Tout ce que je veux, c'est être en mesure de faire mon boulot. J'ai pas envie d'en arriver à un transfert dans une autre brigade. Je suis pas bon pour les nouvelles situations. Et puis il y a mon pote.
Qui ça?
Kelly. Ah. J'adore ça, hein? Un pauvre blanc sans mêler les pinceaux.
Ça, c'est pas vraiment ton genre. On arrête là.
C'est vrai que la dernière saison part de façon extrêmement bizarre, extrêmement curieuse. Elle achève un cycle en plaçant... Que Sipowicz devienne un chef, quand même, à partir de ce premier épisode, c'est quand même extraordinaire. Qu'il arrive à avoir la responsabilité du commissariat. Alors certes, il faut une série d'accidents, mais quand même, il obtient finalement la responsabilité du commissariat.
Il devient bon, au final. Il devient un héros américain.
Il devient bon, certes. Mais c'est compliqué parce que, par exemple, il a ses impulsions racistes. Même s'il réfléchit sur son propre racisme, ses impulsions racistes continuent, même dans la dernière saison. Les impulsions anti-homosexuelles continuent. Donc c'est vrai qu'il devient bon, mais il devient bon sans perdre son caractère de chien et sans son espèce de folie, hein, qu'il continue à l'habiter. Ça, c'est quand même à mettre au crédit de la série.
On voit donc très bien qu'avec NYPD Blue ou Homicide, on est vraiment dans l'héritage de Hill Street Blues. Alors venons-en maintenant, Eric, à l'une des séries policières actuelles, qui elle aussi est peut-être la petite fille de Hill Street Blues. Une série que diffuse FX, The Shield, depuis 7 ans. Cette grande série raconte le quotidien d'une brigade de Los Angeles et plus particulièrement de plusieurs clans. Alors, il y a des détectives à l'ancienne, Claudette et Dutch, qui nous font vraiment penser aux détectives de la série Homicide, puisque leur lieu de prédilection, c'est bien la fameuse salle d'interrogatoire. Il y a ensuite une équipe d'action et de choc, des flics un peu grande gueule, piqués à la testostérone, autour du, alors, entre guillemets, hein, ripou, mais pas tout à fait Vic Mackey et ses cow-boys. Et puis, il y a aussi tous ceux qui tirent les manettes, ceux du monde politique ou les responsables de la police. Je pense par exemple au premier responsable de la police dans la première saison, le Latino Aceveda, et qui ensuite aura un rôle important dans la vie politique de la ville.
The Shield, en fait, elle a cette image de série coup de poing, ce qu'elle est, hein, cela dit, mais elle est bien plus que ça. The Shield, c'est aussi une de ces séries symboles, finalement, de la capacité du câble américain, parce que c'est une série qui vient du câble, à produire, finalement, des œuvres qui vont loin politiquement, artistiquement. Donc, la série, déjà, elle vient de grâce à deux événements notables. Déjà, le film Training Day, hein, qui met en scène Denzel Washington, qui sera oscarisé, d'ailleurs, pour ce rôle, en tant que flic ripou, hein, et puis alors là, sans espoir de rémission, je vous raconte pas la fin, mais c'est vraiment un ripou. Et la série, elle se nourrit aussi d'un scandale, hein, qui commence au début des années 2000, le scandale de l'affaire Rampard, qui est d'ailleurs actuellement en cours de dénouement devant les vrais tribunaux américains. Et donc cette affaire, c'est une affaire de preuves manipulées par la police de Los Angeles. Et tout ça donc donne l'idée à Sean Ryan de montrer la police, mais sous un jour, on va dire, malmené dans un quartier dont on n'a pas l'habitude de parler. Et donc bon, The Shield, c'est ça aussi, hein. C'est vraiment un regard inédit sur Los Angeles, par exemple. C'est une vision ultra violente sur la Californie. On n'a pas l'habitude, hein. On est plus ciel bleu, grand palmier, surfeur. Et là, donc, on se retrouve dans l'Amérique très communautaire, avec ses limites, parce qu'on voit qu'en fait, tout ça peut tourner facilement à l'émeute et à la ultra-violence. C'est aussi un regard finalement acéré sur le travail de la police, hein, qui est soumise à des pressions politiques, qui est soumise à des pressions médiatiques. Et cette série, c'est aussi une série sur les jeux de pouvoir. Et bon, aujourd'hui, je pense que The Shield, elle n'a pas d'équivalent, même au cinéma.
Ce type, il s'est fait buter par un dealer d'héros qui bosse à moto.
Je connais que les gros bonnets, moi. Les petits, je les fréquente pas.
Tête fribo, et une grosse bécane, et du caractère. Et où je peux le trouver?
Pourquoi?
Juste histoire de l'épingler pour meurtre.
On t'a donné son nom pour que tu le couvres, surtout pas pour que tu l'épingles. N'oublie pas, t'es payé pour protéger mon business.
Si ton pote avait descendu n'importe quel connard, on s'en foutrait. Mais il a descendu un éducateur, et ça peut pas aller. Je vais quand même m'assurer que l'enquête n'aille pas trop loin, qu'on puisse pas remonter jusqu'au gros poisson.
S'il se fait choper par quelqu'un d'autre, on garantit rien.
Je vais passer des coups de fil, essayer de le localiser. C'est bien. Salut.
Et puis The Shield, alors The Shield, c'est quand même à la fois la suite de la ligne HBO, de l'indépendance.
Jean-Pierre Eskenazi.
On est quand même relativement ébahi par la conscience de ce qu'ils font des producteurs américains, quoi, avec le personnage qui, dans le premier épisode, vient dire « je ne suis pas le bon flic, je suis une autre sorte de flic ». Bon. On dit exactement ce qu'on veut faire dans cette série-là. Montrer un flic qui va plus loin dans le premier épisode que Sipowicz, le héros d'un IPD Blues, lui, il se contente pas de faire un faux témoignage, mais il tue un autre flic. Et on en fait le bon flic, le héros de la série. Bon, c'est quand même une chose extraordinaire dans la noirceur, et aussi dans le brouillage de cette séparation habituelle entre le bien et le mal, qui est l'apanage du policier.
On est aussi dans une série vraiment maintenant, dans le sens où les épisodes finalement se finissent pas, se commencent pas. On pourrait les regarder enchaînés les uns aux autres pendant 50 heures, quoi. C'est vraiment du...
Tout à fait.
C'est du feuilleton, c'est du récit ouvert, très ouvert, quoi.
Oui, tout à fait. Le feuilleton est vraiment... Bon, ça fait depuis Urgence, on sait que la différence entre feuilleton et série est abolie, que maintenant on n'a plus que des feuilletons série ou des séries feuilleton comme on veut. Plus ou moins, Expert, c'est plutôt du côté de la série, tandis que ça, c'est vraiment plus du côté du feuilleton, tout à fait. Alors c'est vraiment quand même une chose tout à fait exceptionnelle, qui marque aussi l'implication de grands acteurs, quand même, d'un grand acteur du cinéma, de vedettes du cinéma. Glenn Close, qui va faire. Alors, les vedettes du cinéma, il faisait des apparitions, mais là, une saison entière pour Glenn Close, quand même, c'est.
Forest Whitaker
qui vient ensuite. Moi, je ne l'ai pas encore vu la saison avec Whitaker. C'est génial.
Ah, je vais tout vous raconter.
Au début des années 2000, une nouvelle vague de séries policières va débuter avec la série Les Experts CSI. Alors, on va y revenir dans un instant. Ces séries, leur spécificité, c'est de mêler enquête et sciences médico-légales. Alors, nous sommes là dans une sorte de grand cluedo scientifique qui répond à une attente plus ou moins consciente de la société américaine. Alors, avec la science, hein, on traque, on découvre et on met sous les verrous le criminel, ce qui rassure le téléspectateur et le citoyen américain.
Tout récit policier est fondé sur le récit d'une enquête et le récit d'un crime. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est la scène de crime. Et CSI prend le parti pris, finalement, de ne jamais sortir de la scène de crime. C'est-à-dire qu'on va trouver des indices sur la scène de crime, et ce sont seulement ces indices-là avec lesquels on travaille pour élucider le crime. Et donc, finalement, la scène de transition entre les deux récits est gonflée de manière extraordinaire pour occuper, finalement, pratiquement toute l'enquête et tout le récit lui-même. Alors, il a fallu pour ça une invention visuelle, remarque extraordinaire, ces trucages pour montrer l'intérieur, analyse des preuves, cette scientificité, etc. Il a fallu aussi des personnages nouveaux, parce que la froideur des enquêteurs de CSI, c'est quand même pas rien par rapport aux enquêteurs policiers d'antan. Ce personnage de Grissom, un peu en retrait, un peu froid, un peu pas du tout macho, machiste, enfin pas du tout viril. Bon, il y a quand même quelque chose là qui est une invention narrative très très grande.
Dermest. Ce corps doit être là depuis deux bonnes semaines. De la chevrotine numéro 4, apparemment.
Hein? Il n'a pas ses papiers, ni rien qui nous indiquerait son identité.
À quoi servirait de faire exposer le visage de quelqu'un si c'est pour lui laisser ses papiers?
Bon, il est à vous.
Il y a des séries qui sont ce qu'on appelle des formules à choses, c'est-à-dire des séries qui ont une formule, comme par exemple Les Experts.
Martin Winkler, écrivain.
Qui en est déjà à sa 8e année et qui continue à réinventer des histoires en vous la présentant autrement. Il y a un an, il y avait un épisode qui était raconté selon les 4 points de vue différents de 4 acteurs et ça s'appelle Rashomama. Parce que c'est l'histoire de l'assassinat d'une mère, enfin d'une belle-mère, la belle-mère de la mariée ou de la mère de la mariée, je ne sais plus. Mais vous voyez que les scénaristes de la série, l'une des séries les plus regardées au monde à l'heure actuelle, éprouvent le besoin régulièrement de réinventer leur forme, d'aller chercher, avec des histoires qui sont des histoires toujours aussi simples d'ailleurs, c'est ça qui fait la grande qualité de CSI, c'est que c'est une série qui raconte des histoires très simples, mais qui les raconte d'une manière merveilleuse et merveilleusement humaine en plus, avec il y a une épaisseur d'humanité dans les personnages secondaires de... C'est un peu d'ailleurs comme les incorruptibles, c'est-à-dire que c'est les personnages secondaires, les criminels, les victimes, etc., qui sont les plus intéressants.
CSI aussi, c'est la franchise elle-même, fait une expérience assez extraordinaire, me semble-t-il. Moi, j'aurais prétendu, avant cette série-là, que dans une série, le plus important, c'est ce que j'appelle la formule, c'est-à-dire le squelette narratif qui fait qu'un épisode va se répéter d'un épisode à l'autre. Sauf que CSI Las Vegas et CSI Miami sont deux séries qui sont construites sur la même formule et qui montrent deux univers totalement différents, conduits par des... C'est là où on voit que le rôle des personnages, le rôle de l'incarnation de la formule est très important, puisque finalement, alors que à Las Vegas, on voit... Enfin, moi, je trouve qu'il y a une virulente mise en scène d'une société américaine absolument ordinaire, des gens ordinaires, non pas des gangsters, mais totalement pourris. Et donc, en fait, une sorte de critique sociale qui fait souvent froid dans le dos, alors que dans Miami, c'est très rassurant, les méchants sont des gens très violents, des héros du gangstérisme, enfin, des gens qui sont en dehors de la société, donc ils ne font pas peur, avec un flic super rassurant, alors là, une espèce de John Wayne, littéralement atroce, hein. Enfin, pour moi, Miami, c'est irregardable, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'idéologie, comme on disait de mon temps, c'est relativement hallucinant. Et donc là, une expérience assez remarquable, hein, de ce point de vue-là, expérience narrative, là aussi.
Okay, here we go, guys.
Sister
says
it. Which one is it now?
The one.
There.
Okay.
Yeah.
All right. Got that pocket there?
Yeah.
C'est sympa là, ces petites ambiances, ces petits moments de vie sur le tournage des Experts. Vous avez eu de la chance, Karim Merrick, d'aller là-bas à Los Angeles.
Ouais, alors c'est pas tout à fait à Los Angeles, c'est à Santa Clarita, c'est
Excusez-moi.
Trentaine de kilomètres de Los Angeles, dans des immenses hangars où était tourné à l'époque Deadwood et puis Carnival pour HBO. Bon, si on parle des Experts, faut évoquer Jerry Bruckheimer, hein, c'est le personnage central finalement de la série policière des années 2000. Alors Bruckheimer, on le connaît tous en tant que grand producteur hollywoodien. Je suis sûr, Benoît,
Armageddon.
Vous êtes allé voir Top Gun quand vous étiez
Top Gun, c'était lui
encore
aussi,
ado. Voilà. Donc bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a fait gagner des milliards de dollars à l'industrie hollywoodienne avec des films, on va dire, efficaces, hein, pour être poli. Mais bon, il a imposé, en tout cas en ce début des années 2000, il a quasiment à lui tout seul imposé un nouveau style, hein, finalement à la télévision américaine. Tout ça pour rappeler qu'avec Bruckheimer, c'est vrai que la forme a pris énormément d'importance. On est avec des séries qui possèdent toutes des trucages. Et bon, c'est un petit peu le règne du travail en montage, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de montage, beaucoup de musique. Et c'est vraiment le règne de la forme sur le fond. Mais ça enlève rien à la qualité de ces séries, mais qui sont vraiment différentes, on va dire, des séries du câble. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus réfléchi, avec un fond très très intelligent.
Alors Bruckheimer, finalement, il a influencé ensuite et des tonnes de scénaristes.
En tout cas, le succès, l'énorme succès de CSI, bon, c'est pas lui qui l'a créé, hein, au passage, c'est Anthony Zwicker, mais bon.
Il a eu beaucoup de mal à l'imposer.
Et voilà, et donc c'est tout au crédit de Jerry Bruckheimer de l'avoir écouté et puis de lui avoir donné l'opportunité de développer cette série. Mais c'est vrai que dans la foulée de l'énorme succès de CSI, on va voir apparaître un ensemble de policiers ou de collègues de policiers hors normes. Alors je pense à des médecins, je pense à des chercheurs, je pense à des médiums, hein. On va voir aussi que l'usage de la preuve scientifique va devenir primordial, l'interprétation des faits, hein, sous un point de vue différent, ça aussi c'est CSI, c'est-à-dire que chaque policier raconte ce qu'il pense être arrivé, et donc à chaque fois on revoit la scène sous un autre angle, et ça, bon, c'est vraiment CSI qui l'a apporté. Alors qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des séries comme Bones, hein, donc avec un couple, avec un agent du FBI.
J'aime beaucoup celle-là.
Et une anthropologue, ça donne Numbers avec un couple d'agents, un du FBI et puis un mathématicien.
Un peu moins réussi celle-ci.
NCIS, donc là c'est des flics qui enquêtent dans le milieu militaire avec des médecins légistes, donc on reste quand même dans la même mouvance. Esprit criminel aussi pourrait, hein, rentrer dans cette case, on pourrait en citer bien d'autres. Ce qui est important en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que l'industrie américaine, elle a cette capacité à créer un succès et puis derrière à multiplier le concept sans ennuyer forcément le public. Ça, c'est fort.
Alors, Cold Case, autre série de Jerry Bruckheimer, nous y reviendrons dans notre tout dernier épisode. Mais avant cela, ne loupez surtout pas notre avant-dernier numéro consacré demain à Six Feet Under.
Et aux Sopranos.
Ah oui, c'est vrai, on allait l'oublier, celle-là.
Ouais, je vous ai à l'œil.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son, Frédéric Quéroux. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagane et Éric Vérin. So I look in your direction, but
But you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? À suivre sur franceculture.com, la page de notre émission, et dans les kiosques, le mensuel générique, le magazine de la culture série. Bonne nuit. Il est 23h sur France Culture. Retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes annonces.